Merci à l'équipe des musiciens de nous avoir accompagnés dans notre louange au Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer la série que nous avons commencée la semaine dernière, qui est de comprendre notre Dieu à travers des images de la famille. Alors la semaine dernière, on a vu l'image du Père et du Fils, et cette semaine, nous allons voir un autre concept, un autre concept incontournable de la parole de Dieu, qui est la naissance, la nouvelle naissance. Pour ce faire, nous allons voir ensemble un des textes les plus connus, qui est le troisième chapitre de l'évangile de Jean. Nous lirons la fin du chapitre 2 et le chapitre 3 jusqu'au verset 21. Ce texte très connu est en fait un dialogue entre Nicodème et Jésus, des versets 1 à 10, 11, suivi d'un monologue de Jésus qui va répondre à la dernière question que Nicodème va lui poser. Dans les évangiles, nous voyons trois types de personnes qui interagissent avec Jésus. Des personnes qui veulent que Jésus les sauve de leur état de pécheur, qu'ils comprennent eux comme étant fatal cet état de pécheur. Ce sont les gens de mauvaise vie, les gens qui se reconnaissent comme pécheurs. Et Jésus leur fait bon accueil à eux. Il leur dit: oui, tu viens vers moi en cherchant un sauveur, et c'est effectivement ce que je suis. Il leur dit: je n'ai pas été envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Ça, c'est un premier type de personnes qui interagissent avec Jésus. Un deuxième type de personnes, ce sont des gens qui ne cherchent pas Jésus comme un sauveur, mais qui veulent entrer dans le royaume de Dieu par leur propre force, par leur façon impeccable d'observer la loi et les coutumes qu'ils y ont ajoutées à cette loi. Cette deuxième catégorie de personnes ne comprend ni Jésus ni les Écritures. Et dans cette deuxième catégorie de personnes, qui en général est représentée par les pharisiens et les spécialistes de la loi, nous avons encore deux catégories de personnes. Ceux qui voient Jésus comme un obstacle et qui cherchent à le faire mourir à tout prix. Ça, ce sont les spécialistes de la loi et les pharisiens auxquels Jésus a le plus souvent affaire. Ce sont des gens qui cherchent à faire mourir Jésus en le jugeant par leurs traditions, et ces traditions, elles n'ont aucun fondement dans les Écritures. Et puis, il y a un deuxième type de ces personnes, de ces pharisiens, qui, eux, toujours, ils cherchent à être justifiés par leurs bonnes œuvres, mais ils ne cherchent pas à faire mourir Jésus, ils voient Jésus comme un grand enseignant, et ils viennent le voir en reconnaissant qu'il est envoyé par Dieu, et ils veulent apprendre de lui ce qui leur manque pour entrer dans le royaume de Dieu. Ces gens viennent vers Jésus et sentent bien qu'ils n'ont pas encore gagné leur place auprès de Dieu, malgré leur prétendue façon impeccable de respecter la loi. Alors, ils viennent vers Jésus avec sur le cœur cette question: qu'est-ce que je peux faire de plus pour voir le royaume de Dieu? Et Nicodème, l'interlocuteur de Jésus, fait partie de cette troisième catégorie de personnes. Alors, lisons notre texte et voyons ce que nous pouvons apprendre de cette conversation. Je prends la lecture donc dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 3, verset 21. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que c'est que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Ce matin, nous allons voir trois points. Nous allons voir premièrement que la nouvelle naissance est une grâce. Nous verrons ensuite que la nouvelle naissance nous donne une nouvelle identité. Et enfin, nous verrons que la nouvelle naissance produit en nous la foi et la repentance. Dans ce dialogue entre Jésus et Nicodème, Nicodème est le premier à prendre la parole. Il lui dit simplement et avec respect et une apparence d'humilité, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jusque-là, on pourrait se dire « tout va bien ». Mais Nicodème, étant lui-même un des chefs des Juifs, un des pharisiens, il est un maître, il est un enseignant d'Israël, et en appelant Jésus maître et enseignant envoyé par Dieu, Jésus est en train, en fait, de placer Jésus sur le même plan que lui, au même niveau que lui. Alors bon, c'est vrai, Nicodème vient voir Jésus, il veut parler avec Jésus, et il considère Jésus comme un grand enseignant, probablement comme un plus grand enseignant que lui, plus sage. Il vient lui demander conseil, il lui demande son enseignement. Mais il ne comprend pas réellement qui est Jésus. Il pense que c'est un père. À la fin du chapitre 2, on voit que beaucoup crurent en Jésus, mais que Jésus, lui, ne leur faisait pas confiance. Et dans le grec, dans la version originale, c'est littéralement écrit « Ils crurent en Jésus, mais Jésus ne crut pas en leur foi. » Nicodème, à ce point de l'évangile de Jean, est quelqu'un qui a cru en Jésus, mais en qui Jésus n'a pas cru. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que pour croire en Jésus, il faut d'abord comprendre qui est Jésus. Nicodème, lui, est tellement habitué à ses traditions juives qu'il s'est fait une image erronée de Jésus. Il pense comprendre qui est Jésus, il pense comprendre ce que dit Jésus, ce qu'il fait. Mais à cause de ses traditions juives, il n'écoute pas vraiment ce que dit Jésus et tire des conclusions trop vite sur l'intention de Jésus. Il est trop focalisé sur lui-même. Nicodème est un juif trop attaché à sa religiosité. Il est un des chefs des juifs. Jésus l'appelle même l'enseignant d'Israël. Pas juste un enseignant, mais un enseignant très en vue, l'enseignant d'Israël. Il croit que sa naissance en tant que juif, sa circoncision et son observation des lois de la loi de Moïse lui donne accès au royaume de Dieu. Et pourtant, au fond de lui, il comprend bien qu'il n'est pas parfait, que Dieu exige la perfection. Alors, il cache ses imperfections derrière des traditions. Et lorsqu'il croit en Jésus, en fait, il a l'espoir d'avoir devant lui un enseignant qui va lui donner de nouvelles traditions à observer afin qu'il puisse encore mieux cacher ses imperfections aux yeux de Dieu et être plus à l'aise dans les ténèbres. C'est ce qu'avaient fait Adam et Ève, en quelque sorte, après la chute. Ils se sont cachés aux yeux de Dieu lorsqu'ils ont réalisé leur nudité. Ils ont fui loin de lui. Alors eux, ils n'avaient pas de tradition pour se cacher. Ils ont pris des feuilles de figuier. La raison qui pousse Nicodème à venir vers Jésus cette nuit-là, c'est cette question qu'il a sur le cœur. Jésus, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà pour entrer dans le royaume de Dieu? Alors, remarquons bien que dans sa première réplique, Nicodème n'a pas posé de question. Mais remarquons également, à la fin du chapitre 2, au verset 25, que Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur l'homme, car il savait ce qui est dans l'homme. Et nous avons vu dans cette première partie ce qui se trame dans le cœur de Nicodème. Alors, lorsque Jésus prend la parole, il n'y va pas par quatre chemins. Il répond avec cette expression « en vérité, je te le dis ». Cette expression, elle revient 25 fois dans l'évangile de Jean. Et ça veut dire en gros « attention interlocuteur », ici Nicodème, « attention aux prochaines paroles que je vais prononcer ». C'est quelque chose de très important et de nouveau. Alors Jésus répond « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Dès sa première réplique, Jésus fait deux choses. Il montre à Nicodème qu'il comprend la vraie raison pour laquelle il est venu le voir. Il lui montre qu'il sait cette question qu'il a sur le cœur. Il comprend que Nicodème veut ajouter des choses à ce qu'il fait déjà pour gagner le royaume de Dieu. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est de lui répondre, « Nicodème, il n'y a rien que tu puisses faire pour voir le royaume de Dieu. Cela ne vient pas de toi, mais de Dieu. Nicodème, tu dois naître de nouveau. » Jésus, on pourrait dire, se met un peu au même plan que Nicodème, il se met un peu au même niveau que lui. Il descend, il essaie de faire comprendre Nicodème. Il lui dit en gros, « Nicodème, il faut que tu sortes de ton ancienne façon de penser. Tu vois les signes miraculeux que je fais. Tu vois ces choses-là, mais tu te focalises tellement sur tes traditions que tu ne comprends pas ces signes comme ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire un témoignage en faveur de celui qui fait ces signes. Nicodème doit complètement changer sa façon de penser. Il croit en Jésus, mais il ne croit pas réellement en lui. Il croit que Jésus vient lui apporter un nouveau style de feuille pour cacher sa nudité spirituelle. Mais en vérité, Nicodème doit faire ce qu'il ne peut pas faire. Nicodème doit naître de nouveau. Remarquons bien à quel point la situation est ironique. Nicodème vient vers Jésus en reconnaissant en lui un enseignant. Et il lui demande en gros s'il n'aurait pas dans la poche quelques traditions à ajouter à son répertoire pour mieux se cacher de la lumière, sans réaliser en fait qu'il est en train de parler à la lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est un peu comme si l'employé d'un magasin demandait à un autre employé comment arnaquer le propriétaire sans réaliser qu'il est en train de parler au propriétaire. Il y a une émission comme ça, un peu à la télé. C'est Undercover Boss, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Nicodème est choqué par cette réponse que lui fait Jésus. Il s'attendait à ce que Jésus lui dise de faire quelque chose de très dur, quelque chose que seuls des spécialistes avec une discipline impeccable pourraient atteindre. Quelque chose comme « Nicodème, ton problème, c'est que tu ne jeûnes pas assez ». Tu jeûnes deux fois par semaine, c'est pas mal, et il va falloir jeûner une troisième fois maintenant. Ou alors, Nicodème, Ton problème, c'est que tes prières ne sont pas assez longues. » Au lieu de ça, Jésus lui dit, « Nicodème, ton problème, c'est que tu dois naître de nouveau. » Nicodème, lui, de son côté, il est tellement convaincu qu'il doit faire quelque chose pour gagner son salut, que lorsque Jésus lui dit qu'il doit naître de nouveau, il se dit, « Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ça ?» Et il répond à Jésus, l'une des réponses qui peut paraître les plus bêtes qu'on peut faire, hein. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Mais ça, pour le coup, c'est pas évident, hein. Mais ne soyons pas trop promptes à juger Nicodème, à lui jeter la première pierre. Car naturellement, lorsque nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous avons tous cette tendance religieuse à vouloir être acceptés à travers nos performances. C'est ce que nous enseigne le monde. C'est ce qu'on nous enseigne depuis que nous sommes tout petits. Si tu veux vraiment quelque chose, il te faut le mériter. Et en disant « tu dois naître de nouveau », Jésus nous parle à nous aussi aujourd'hui. Et il nous dit à nous aussi qu'il n'y a absolument rien que nous puissions faire pour voir le royaume de Dieu. Cela nous est donné. C'est une grâce. Si nous sommes humains, c'est parce que nous avons des parents humains et nous n'avons rien fait pour acquérir notre nature humaine. Dieu est esprit et nous devons naître d'esprit. Et de la même façon, cela ne vient pas de nous, mais d'en haut, de Dieu. Pasteur Samuel, la semaine dernière, nous posait cette question. Pourquoi cette image familiale du Père et du Fils ? Alors, il y avait plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles était afin que nous puissions mieux comprendre le genre de relation qu'il y a au sein de la Trinité et le genre de relation que Dieu veut avec nous. Et cette semaine, Jésus parle de nouvelle naissance à Nicodème pour lui faire comprendre et pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre salut, que cela ne vient pas de nous, mais que c'est une grâce. Mais à travers cette image de la nouvelle naissance, il veut aussi nous faire comprendre que nous avons besoin d'une nouvelle identité. Dans un autre épisode, Jésus s'adresse à un jeune homme riche qui a les mêmes motivations que Nicodème. Il veut entrer dans le royaume de Dieu et il vient voir Jésus pour lui demander ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il fait déjà pour hériter de la vie éternelle. Le problème de ce jeune homme riche, c'est qu'il fonde son identité sur sa richesse. Il est prêt à tout faire pour entrer dans le royaume de Dieu, sauf évidemment abandonner son identité. Cela reviendrait à abandonner le sens réel de sa vie, en quelque sorte ce qui justifie son existence. Cela serait une sorte de mort pour lui, et il ne peut pas le faire. Ici, le problème de Nicodème, ce n'est pas qu'il est riche. Alors, il est probablement riche, il est l'enseignant d'Israël, il est membre du Sanhédrin, chef de la synagogue. Mais la richesse en elle-même n'est pas un problème si elle ne définit pas notre identité. Non, son problème à Nicodème, c'est qu'il a fondé son identité sur sa première naissance, sur le fait qu'il est juif. Et en lui disant qu'il doit naître de nouveau, finalement Jésus est en train de faire un peu la même chose que ce qu'il avait fait avec le jeune homme riche. Il lui dit, tu dois mourir à toi-même, tu dois arrêter d'essayer de justifier ton existence à travers ta religiosité. Et cette image de la nouvelle naissance est très intéressante, car elle indique un passage de la mort à la vie, et elle implique que ce qui était avant doit mourir pour laisser place à cette nouvelle vie. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins ? Est-ce que c'est la perspective que dans 5 ans, je serai champion de France de tennis de table, champion de foot, champion de basket? Est-ce que c'est la perspective que dans 5 ans, je serai ingénieur, contrôleur aérien, à la retraite? Ou est-ce que c'est la perspective que dans quelques dizaines d'années, je serai auprès de Dieu pour l'éternité? C'est ce qu'Augustin, le fameux théologien du IVe, Ve siècle, appelé l'ordre des amours. Nous devons aimer Dieu plus que les hommes et les hommes plus que les choses. Et lorsqu'il commence à y avoir du désordre dans nos affections, lorsque nous commençons particulièrement à mettre quoi que ce soit à la première place devant Dieu, lorsque nous construisons notre identité sur quoi que ce soit d'autre que le Seigneur, alors nous courons à la catastrophe et le château de cartes qui est notre vie commence à s'écrouler. Au dernier culte de famille, Nicolas nous a posé la question. Il nous a posé la question surtout aux enfants. Il leur a demandé « Qu'est-ce qui vous distrait, les enfants ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous devriez faire ?» Et là, la petite Laura, au premier rang, 8 ans, en moins de 3 secondes, elle lève la main et elle s'écrie « Les idoles ». Très spirituelle, cette jeune fille. Ses parents doivent être fiers d'elle. Augustin aurait été fier d'elle. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. En nous offrant une nouvelle naissance, Jésus balaye les idoles de nos vies et nous donne une nouvelle identité en lui. Paul nous dit dans la seconde épître aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le fait de devenir une nouvelle créature implique la mort de ce que nous étions avant et une nouvelle naissance. Concrètement, un réagencement de nos affections et une nouvelle identité fondée sur Christ. Le seul qui ne nous décevra jamais si quotidiennement nous continuons à le placer à la première place. Laissez-moi vous lire les derniers mots de l'œuvre de C.S. Lewis, « Les fondements du christianisme », qui illustre cette idée que nous devons mourir à nous-mêmes. Voici les derniers mots de l'œuvre, voici comment il conclut. Renoncez à vous-même et vous trouverez votre vrai vous-même. Perdez votre vie et vous la sauverez. Mourez à vous-même, la mort de vos ambitions, de vos plus grands désirs, chaque jour et, pour finir, la mort de votre corps. Mourez de toutes les fibres de votre âme et vous trouverez la vie éternelle. Lâchez tout. La moindre chose que vous n'aurez pas abandonnée ne pourra être à vous. La moindre chose en vous qui ne sera pas morte ne pourra jamais être ressuscitée. Partez à la recherche de vous-même et vous ne trouverez au final que haine, solitude, désespoir, fureur, ruine et déchéance. Mais recherchez le Christ et vous le trouverez. Et avec lui, tout le reste vous sera donné en plus. Fin de citation. Une nouvelle naissance implique la mort de ce qui était avant dans notre vie, à la première place. Cette nouvelle naissance est également un mystère, dans le sens que l'on voit une nouvelle vie. On la voit se manifester à travers les bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous pouvons constater que quelqu'un est en train de grandir en Christ. Mais le moment où quelqu'un vient à la vie, qui peut l'expliquer ? C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que notre Seigneur exprime au verset 8 lorsqu'il nous dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. De la même façon que l'on ne peut pas expliquer ce qu'est la vie biologique, on ne peut pas non plus expliquer ce qu'est la vie spirituelle. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que la vie spirituelle est à la théologie, ce que la vie charnelle, ce que la vie biologique est à la biologie. Dans les deux cas, on peut étudier ces vies, spirituelles et biologiques. Mais dans les deux cas, on ne peut pas exactement expliquer ce qu'elles sont et comment elles se produisent. Et dans les deux cas, ce qu'on peut dire pour certains, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Cette nouvelle naissance est donc un mystère. Elle nous donne une nouvelle identité. Cette nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu seul. Et la réponse à la question qui pourrait être posée, mais alors comment naître de nouveau ? Eh bien, c'est simplement, il n'y a pas de comment, parce que ce n'est pas quelque chose que nous produisons, c'est quelque chose que Dieu produit en nous. Cependant, on peut voir dans notre texte que Jésus relie directement la nouvelle naissance, l'action seule de Dieu, au fait de croire, au verset 15, au verset 16, et plus loin au verset 20, qui est notre choix. La nouvelle naissance est à l'origine et précède notre conversion. Elle est le déclencheur de notre repentance et notre foi en Christ. Elle ne la précède pas de façon chronologique, tout cela se fait instantanément, mais elle la précède par son origine. Augustin, dont nous avons parlé plus haut, explique dans un des chapitres de ses confessions qu'il y a quatre façons dont une chose peut en précéder une autre. Il explique qu'une chose peut en précéder une autre selon le temps, comme au printemps, la fleur va précéder le fruit. Et ça, c'est généralement la façon dont nous comprenons le terme « précéder ». Mais une chose peut également en précéder une autre selon l'ordre d'intention, selon l'ordre d'importance, comme le fruit précède la fleur. Le fruit est plus important que la fleur, et l'intention de la fleur, c'est le fruit. Dans ce sens-là, on peut dire que le fruit précède la fleur. Une chose peut en précéder une autre selon l'éternité, comme Dieu précède sa création. Et enfin, pour ce qui nous intéresse ici, une chose peut en précéder une autre selon l'origine, comme le son précède le chant. Alors, remarquons bien que le son ne précède pas le chant de façon chronologique. Lorsque l'on commence à chanter, ce n'est pas comme si on produisait un son qui se transforme ensuite en chant. Mais le chant trouve son origine dans le son. On pourrait dire, en quelque sorte, qu'il est la matière du chant. Et là, ici, c'est la même chose pour la nouvelle naissance, qui va précéder et provoquer notre foi et notre repentance. Notre repentance trouve son origine dans l'œuvre seule de Dieu, qui est la nouvelle naissance. Jésus dit que si quelqu'un veut voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Ce qui veut dire que cette nouvelle naissance nous ouvre les yeux à notre condition de pécheur et à l'amour de Dieu. Ce qui va être le moteur de notre foi, le moteur de notre vrai croire, c'est cette nouvelle naissance. Comme nous l'avons dit plus haut au chapitre 2, beaucoup avaient cru en Jésus, mais ils n'avaient pas vraiment cru en lui, car ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas voir Jésus réellement pour qui il est. Ils n'avaient pas les yeux ouverts. Nous l'avons dit, et je le répète, le fait de naître de nouveau est quelque chose d'indispensable et de fondamental, qui est le moteur, le seul moteur qui puisse exister, qui va nous amener à voir le royaume de Dieu et à croire de façon salvatrice. Les deux sont instantanés, dans le temps, mais la nouvelle naissance est à l'origine de notre foi. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'elle la précède. Pasteur Samuel m'a illustré cela en début de semaine, avec l'interrupteur et la lumière. Le moment où l'on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. C'est instantané. Et pourtant, l'un précède l'autre, selon l'origine. Avant la nouvelle naissance, nous cherchions à cacher notre nudité spirituelle. Nous cherchions à mettre un masque, à cacher à Dieu et à nous-mêmes le fait que nous sommes pécheurs. Et nous faisions ça parce que nous ne comprenions pas l'amour que Dieu a pour nous. Nous aimions les ténèbres et ne voulions pas venir à la lumière de peur que nos œuvres soient mises en lumière. C'est ce qui est écrit au verset 20. Et c'est ce que fait Nicodème. Il vient voir Jésus de nuit, ne voulant pas être vu en pleine lumière. Mais Jésus nous dit ce fameux verset, le verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous ne voulions pas croire en lui. C'est-à-dire, nous ne voulions pas venir à la lumière de peur qu'il nous juge pour ce que nous avions fait. Alors que la seule chose qui peut nous condamner, c'est de ne pas venir à lui. Ça aussi, c'est ironique. Est-ce qu'il existe quoi que ce soit que vous ayez fait que Dieu ne puisse pas vous pardonner ? Non. il n'y a rien que vous ayez fait qui ne puisse vous pardonner. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 15 et au verset 16, afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire quiconque, c'est-à-dire toute personne. Toute personne qui croit en lui. Peu importe à quel point on peut se sentir sale et indigne, il est prêt à nous laver, à nous purifier de tout péché. Lorsque deux époux échangent leurs vœux, ils disent qu'ils se prennent pour le meilleur et pour le pire. Et parfois, j'imagine qu'ils sont un peu stressés, parce qu'ils savent très bien que leur conjoint ne connaît pas encore le pire d'eux-mêmes. Et ils se disent, j'imagine, mais comment est-ce qu'il ou elle va réagir quand il va apprendre ceci ou cela de moi ? Est-ce que je vais toujours être accepté ? Est-ce que je vais toujours être aimé ? Est-ce que je vais toujours être accepté ? Est-ce que je vais être rejeté, peut-être ? Jésus-Christ, lui, nous invite dans cette relation. Et il nous dit, lui aussi, pour le meilleur et pour le pire. Sauf que lui, il connaît déjà notre pire. Il connaît notre pire encore mieux que ce que nous-mêmes, nous connaissons notre pire. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Il a souffert les conséquences de notre pire, parce qu'il nous aime. Et à quel point est-ce qu'il nous aime ? Il nous a aimés au point de mourir pour nous. Et c'est comme ça que nous connaissons l'amour. 1 Jean 3,16, première épître de Jean, chapitre 3 et verset 16, nous dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. » Alors, n'ayons pas peur de lui dire oui. Ne restons pas dans les ténèbres. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder à la croix, de croire en lui. De la même façon que les Israélites, lorsqu'ils étaient dans le désert, dans le livre des Nombres, qu'ils étaient en danger de mort parce qu'ils allaient mourir de morsures de serpent, ils ne pouvaient rien faire pour se sauver eux-mêmes. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était de regarder le serpent de bronze que Moïse élevait. Eh bien aujourd'hui, de la même façon, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder au Fils de Dieu, Jésus-Christ, élevé à la croix, de croire en lui, de croire qu'il est mort pour nous, qu'il a pris sur lui le poids de nos fautes afin de nous faire naître de nouveau dans la famille de Dieu. Et mystère de la nouvelle naissance, bien que ce soit notre choix de croire, notre responsabilité, que Jésus-Christ nous invite à lui dire oui, l'origine n'est pas notre, mais tout vient de Dieu. Car en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors prions. Notre Père, notre Dieu, quel amour incomparable. Comment pourrions-nous comprendre à quel point tu nous aimes ? Tu nous dis dans ta parole que les anges eux-mêmes sont tellement fascinés par ton évangile qu'ils plongent leur regard dedans. Seigneur, je veux te remercier pour cet amour que tu as manifesté envers nous, à la croix. Je veux te prier pour, si jamais certaines personnes n'ont pas encore placé leur confiance en toi, qu'ils puissent le faire ce matin. Parce que tu n'es pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par toi. Seigneur, je veux également te prier pour nous qui t'avons connu, qui avons placé notre foi en toi. Je te prie que tu puisses nous redonner cette assurance que tu es là, à nos côtés, et que tu nous aimes toujours, aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait à la croix, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle identité que tu nous donnes en toi. Et Seigneur, je veux te remercier parce que voilà, c'est tellement rassurant que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Et tu nous appelles, Seigneur, aussi, à prier pour les gens que nous connaissons, qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, on sait qu'on peut te faire confiance. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.